Pendant la toune de Blink-182, on parlait de tout et de rien. Hey, on a sauté, là, ça c'est juste à l'image de notre émission, là, pendant 2 minutes et demie, avec M. Jonathan Julien, député de Charlebourg, ministre de la Capitale-Nationale, on a sauté de politique internationale au temps des fêtes, aux Chargers et les séries de la NFL. On se promène un peu partout. Monsieur Julien, merci d'être là. Content de vous jaser en ce début d'année.
Hey, grand plaisir d'être ici avec vous autres, messieurs. Puis, on l'a dit tantôt, mais bonne année. On ne s'est pas
merci.
Vu depuis la nouvelle année.
Oui,
là,
bonne année. Ouais.
À vous aussi. Santé, bonheur à vous et toute votre famille.
Yes.
On a une belle liste d'épiceries de sujets chauds pour la ville de Québec. J'aimerais, monsieur Julien, commencer avec l'histoire du tramway. Commençons là, pourquoi pas. Est-ce qu'il y aura, selon vous, une suite, je vais le mettre entre guillemets, positive pour le tramway une fois que les conservateurs seront au pouvoir au Canada?
Ah bien, clairement, nous, notre intention, puis le tramway, là, il est, j'ai le mot un peu boiteux, il est sur les rails. Là.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on on a signé l'entente, là, c'est des PQ Infra, la Ville de Québec, le ministère des Transports, puis on avance. Et ce qui est bien, c'est qu'il est bien planifié. CDPQ Infra a déposé un rapport assez clair là, sur la desserte des banlieues, qui est primordiale, la colonne vertébrale qui est le tramway, les SRB, Rive-Sud, Rive-Nord. Puis la phase 1, c'est la colonne vertébrale. Et oui, dans le rapport, on mentionne que ça va améliorer la mobilité. Donc, on y croit, puis on est engagé à le faire. Je vais revenir sur votre question, la chute. L'autre chose aussi, c'est que ce projet-là, c'est un projet de développement économique.
Ouais.
Et c'est hyper important pour la région de la Capitale-Nationale. Des projets majeurs d'infrastructure, oui, il y a l'investissement sur le projet en soi, mais on parle de 2 à 4 milliards d'investissements qui sont déjà planifiés en termes d'hébergement, de commerce institutionnel le long du parcours. Ça rend en réalité ce projet-là un outil de mobilité. Dans le rapport, c'est clairement mentionné, mais il faut également le voir comme un outil de développement économique pour la capitale avec des investissements privés. Avec ce qui se passe actuellement de l'autre côté de la frontière, je pense qu'on ne peut pas se passer dans la capitale nationale d'avoir un projet structurant comme celui-là avec des investissements majeurs. Et je pense que le Parti conservateur devrait comprendre ça.
Et si votre niveau de... Juste rajouter pour relancer, votre niveau de frustration ou peut-être de satisfaction, si jamais, éventuellement, M. Poilievre décide de mettre ce montant-là sur un troisième lien à la place du tramway, mettons.
Mais pour nous, là, encore là, je l'ai mentionné dans les derniers jours, puis je le redis. Il faudrait arrêter d'avoir une espèce de vision manichéenne, là, c'est sans nuance, de dire c'est un ou l'autre, de mettre en opposition deux projets qui sont nécessaires pour la région. Je viens de parler du projet de tramway. Le lien interrive, là, ça aussi, c'est un projet de développement économique avec des investissements majeurs. Ça va décloisonner l'Est du Québec et effectivement, ça va être des investissements intéressants pour la Capitale-Nationale. Moi, je pense que la Capitale-Nationale mérite les deux.
Ouais.
Moi, je suis ministre de la Capitale-Nationale, ministre des Infrastructures, et je crois qu'on doit faire les deux. Maintenant, on a un parti actuellement, le Parti libéral, qui dit uniquement le tramway. On a le Parti conservateur qui dit uniquement le troisième lien. Et moi, ce que je dis, c'est on va faire les deux et le fédéral devrait faire les deux.
Est-ce que vous allez embarquer dans la démarche de la Ville de Québec avec eux? Bruno Marchand a mentionné hier, on va poursuivre le gouvernement fédéral si l'argent n'est pas versé pour le tramway. Est-ce que le gouvernement du Québec embarque dans cette démarche-là?
À première vue, je pense pas que c'est la bonne avenue. Habituellement, les gouvernements fédéraux respectent leur engagement. Donc, je m'attends, en fin de compte, qu'il y ait un respect des engagements. Alors, les sommes qui sont prévues, 1,4 milliard, puis je reviens sur le 1,4 milliard. C'est moi qui l'ai négocié, le BI, à l'époque, avec Dominique Leblanc. Il y a 1,2 milliard de sécurisés, 240 millions qui doivent être sécurisés. Mais M. Trudeau était sorti avec M. Legault pour dire on va être là à la hauteur de 40 % pour ce projet-là, dépendant des coûts, mais on va être là à la hauteur de 40 %.
Puis là, présentement, c'est 28.
Non, c'est même 18.
18
maintenant. Alors, même à ce niveau-là, il n'y a pas de respect de ce qui avait été nommé par rapport au projet.
C'est possible de faire le tramway sans le fédéral?
Bien, c'est-à-dire encore là, nous, on veut faire les deux. Alors, je dirais, c'est possible de faire le lien intérif sans le fédéral? Nous, on avance dans les deux projets. Et naturellement, pour des projets d'infrastructure, il est normal pour des projets de mobilité et d'infrastructure que le fédéral participe.
Là, on dit qu'il est normal que le fédéral va participer pour le tramway puis qu'on s'attend encore à une participation puis même plus élevée que le 1,4 milliard. Mais le fait reste que les conservateurs, à moins d'un revirement de situation immense, les conservateurs vont prendre le pouvoir. Puis ils ont été encore une fois très, 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 très clairs. S'il y a une chose qui sont les conservateurs présentement, c'est clair à l'effet que de l'argent pour le tramway, il n'y en aura pas. Pourquoi on continue de dire qu'à un moment donné, ils vont avoir un éclair de génie puis dire « Ah, finalement, on va peut-être embarquer ». Ça me semble un peu irréaliste de penser qu'ils vont finir par en mettre.
Mais ce que je dis, c'est ils devraient en mettre.
Mais ils ne le feront pas. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, si je pourrais continuer... Ce que dit Poilievre, ce que dit Paulus, c'est L'argent qui est prévu pour le tramway, on va le mettre sur le lien interrive. Oui. Est-ce que c'est le même argent? C'est le même montant? Et nous, là, on est engagé aujourd'hui avec la situation actuelle où il y a 1,5 milliard qui va sur le tramway. Puis on est engagé à faire les deux parce qu'on avance le lien interrive. Les appels de terrain ont été lancés. On est en train de discuter avec ceux qui ont déposé. Donc oui, on veut faire les deux. Et je réitère, une fois que j'ai dit ça, ces deux projets-là, si quelqu'un me dit dans la capitale nationale, on ne mérite pas des projets d'infrastructure avec des investissements majeurs et que le fédéral ne devrait pas y être, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais l'état de situation actuellement, c'est comme si on les met toujours en opposition, ce qui fait en sorte que c'est difficile de faire avancer ces projets-là parce que c'est comme si un va sans l'autre. Mais non! On doit faire les deux à Québec. On mérite ça, puis on en a besoin. La croissance démographique, tantôt, je vous entendais, quand j'étais dans la salle d'attente, parler des projections dans le milieu scolaire. Puis qu'on se trompait. Et je vais vous dire pourquoi on se trompait. 23 000 augmentation de démographie à Québec l'an dernier. Habituellement, c'est 7 8 000 personnes. 23 000 personnes d'augmentation parce qu'on est une capitale nationale très attractive. Dans les projections, la région de la capitale nationale, la deuxième place au Québec qui aura la plus grande augmentation dans les 20-25 prochaines années. Alors, 23 000 versus 8 000 habituellement, c'est 4 000 jeunes qu'on doit mettre sur les bancs d'école versus à peu près 1 500 habituellement. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que la capitale nationale est attractive, parce qu'on pose des gestes aussi, la phase 3 Samuel de Champlain, la phase 4. Et quand on regarde la projection démographique, je ne vois pas comment on ne devrait pas avoir un réseau structurant de mobilité et comment on peut se passer d'un lien tarif.
Dans l'éventualité où le fédéral n'en met pas d'argent dans le tramway, puis on espère qu'il va le faire, je le comprends. Mettons qu'il ne le fait pas, est-ce qu'on a un plan pour que ça se fasse quand même?
Pour nous, on a pris l'engagement de réaliser les deux projets et on avance dans les deux projets.
Bien, pour le bien de nos auditeurs, M. Julien, vous êtes le ministre de la Capitale-Nationale. Un 16 janvier 2024, quel est votre niveau de confiance qu'un jour, ici, Capitale-Nationale, on aura les deux projets et le tramway et le troisième lien?
Nous, on s'est engagé à faire les deux, mais plus que l'engagement, le processus est en cours dans les deux cas. C'est-à-dire que je comprends qu'il y a eu du cynisme, je comprends qu'on doit rebâtir la confiance, mais les gestes qu'on a posés dans les 6 derniers mois sont clairs, à la fois avec l'entente pour la tramcité et à la fois avec le processus, un mode collaboratif pour un lien tarif qui a été lancé, appel d'intérêt, appel de proposition, preuve de concept, on est en action dans les deux, on va les réaliser les deux.
Je suis un petit cul de la Basse-Ville, j'ai mal à mon Saint-Roch depuis un an.
T'as raison.
Je suis allé courir là la semaine passée, puis encore cette semaine, puis je me dis, ça n'a pas d'allure ce qui se passe. Mais à l'automne dernier, vous avez dit, hey, ça allait bien à Saint-Roch. Oui. Regrettez-vous vos paroles?
Non, ça allait bien à Saint-Roch.
L'automne dernier? Hey, oui. Moi, ça allait mal en crime quand je courais là.
Mais je ne sais pas, alors je sais pas comment tu me cites, mais Saint-Roch, moi, j'ai travaillé là. Saint-Roch, ouais. C'est le cœur de la ville. Saint-Roch, c'est notre milieu cosmopolite, la capitale nationale. Saint-Roch, il y a de la créativité. On a amené beaucoup de TI. Saint-Roch, on l'a revampé dans le temps de l'Allier. Actuellement, il y a des enjeux dans Saint-Roch, j'en conviens. Puis c'est sûr que quand je vois la cordée qui quitte, quand je vois Benjo qui quitte, moi, je suis allé avec mes jeunes enfants qui sont rendus à 20 et 23 ans.
Moi aussi.
Alors, tu sais, c'est un endroit là, primordial pour Québec. Il y a plein d'enjeux dans Saint-Roch, puis il faut s'attaquer à tous ces enjeux-là. Il y a l'enjeu de l'itinérance. Puis l'itinérance, elle a changé, hein, on le constate, avec les opioïdes. C'est plus la même itinérance qu'à une autre époque.
Non, parce que quand j'étais là, mardi passé, ça crie fort, puis les gens craignent l'itinérance.
Alors, on doit poser des gestes. On pose des gestes. Quelqu'un va dire, ouais, mais ça ne règle pas la situation. C'est une situation difficile à régler. On le voit partout dans les grandes villes nord-américaines. Mais on a posé des gestes avec Lionel Carman, avec Prisme, un accompagnement de l'itinérance pour justement la réinsertion avec du logement puis de l'accompagnement professionnel. On a rajouté des ressources avec l'Aube-Rivière. Et ça, encore une fois, on doit continuer. Puis Lionel, avec Bruno Marchand, on travaille. On doit toujours continuer. Deuxième geste, amener de l'habitation. L'îlot actuellement, Dorchester, oui, on doit amener plus de densité d'habitation justement pour animer le quartier. Le troisième geste que je pense, qui est primordial, et là, je veux être certain d'être clair parce que des fois, les commerces de proximité, la SDC, moi, j'en ai rencontré plusieurs là, avant le temps des fêtes. Ces gens-là vivent le quartier. Ces gens-là sont attachés au quartier. Ces gens-là voient la réalité et ont des pistes de solutions. On ne peut pas demander à un commerçant uniquement, lui, de trouver toutes les solutions. Mais les SDC qui sont en place, avec un leadership, avec des tables concertées, si on prend la parole de ces commerçants-là, qui voient la réalité, qui voient les enjeux et qui ont des pistes de solutions, là, on va y arriver. Et encore une fois, ça, c'est un travail hebdomadaire à toutes les semaines. Il faut que ce regroupement de commerçants-là, avec le leadership de la ville, puisse travailler justement sur ce qu'on observe actuellement dans Saint-Roch. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre Saint-Roch. Il n'est pas trop tard, non. Mais on doit être vigilant.
Parler de l'îlot d'Orchester tout à l'heure, projet des Trudel, William Trudel, sur nos zones, a dit hey, « là, je suis tanné que ça brette. J'ai demandé au maire Marchand cette semaine, vous engagez-vous à réaliser l'îlot d'Orchester comme William Trudel veut le réaliser? » Il m'a dit « Non, il faut trouver des voies de passage. Il y a de la grogne citoyenne. » Vous voyez ça comment, un gars qui est prêt à investir 1 milliard dans Saint-Roch? Il me semble qu'il y a 15 étages. Pas grave, là, on en fera 15, là. Le secteur est en train de mourir.
Ah, mais Jeff, je suis plus à ville, je vais faire attention. C'est sûr qu'il y a toujours des enjeux d'aménagement du territoire, puis c'est important parce que quand on installe des bâtiments, c'est comme on dit, c'est pour la vie plus 100 ans, c'est pas tout à fait le cas. Mais,
oh oui.
Alors, c'est important que l'aménagement du territoire, surtout dans un secteur névralgique comme le secteur Saint-Roch, soit respecté. Mais c'est certain, puis j'avais le même défi quand j'étais à la ville, faut être le plus vigilant puis le plus agile possible, surtout avec la situation que vit Saint-Roch, pour que ça aille le plus rapidement possible.
Monsieur Julien, parlons un petit peu de Donald Trump. Le 20 janvier s'en vient rapidement. Là, on est le 16 janvier en ce moment. À quel point la menace Donald Trump, la tarification de 25 % là, pourrait affecter la région de la capitale nationale?
Bien, écoutez, premièrement, il faut s'en préoccuper. Hein? Puis on a vu hier la rencontre des premiers ministres. Christine Fréchette travaille pour l'ensemble du Québec avec M. Legault. Mais moi, dès l'élection de Donald Trump, le lendemain, j'ai demandé à mon équipe au cabinet, on a mis en place la ZEM, la Zone économique métropolitaine, oui. Qui regroupe les chambres de commerce, les directions de développement économique des deux villes, Québec international et tous les joueurs là, économiques. On a fait un groupe, un task force, excusez-moi le terme, pour voir ça serait quoi l'impact pour la capitale nationale et voir c'est quoi les mesures de mitigation qu'on a. Je reviens. Capitale nationale, quand on regarde ça de manière relative, on est mieux positionné qu'ailleurs par rapport à ce risque-là. C'est-à-dire que notre première industrie qui a le plus d'employés, c'est finance et assurance, plus que le gouvernement, là. Alors avec les compagnies d'assurance, essentiellement les sièges sociaux. Gouvernement, siège social du gouvernement, les TI. Et après ça, il y a beaucoup d'entreprises quand même qui sont dans le manufacturier, l'exportation. On a recensé 851 entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Et là, ce groupe de travail-là, c'est de voir c'est quoi vos exportations, quel est le volume, en fin de compte, qui est envoyé aux États-Unis, quelles seraient les mesures de mitigation. Mesures de mitigation, c'est est-ce qu'il y a des alternatives à l'exportation actuellement américaine, justement pour être prêt. Parce que, également, je vous entendais ce matin dire « on ne voit pas le plan ». Le plan, il est travaillé, mais le plan va dépendre justement de ce qui va être déposé la semaine prochaine ou plus tard. Alors, je pense que les mesures doivent être, à la hauteur en réaction à ce qu'on va observer. Il ne faut rien écarter, comme disait M. Legault.
Fait que pas trop inquiet pour la capitale nationale si jamais menace Donald Trump devient réalité?
Ça reste inquiétant, mais en position relative, on est mieux positionné. Et puis, naturellement, on va attendre de voir...
Ouais. Action-réaction.
Oui.
Cool. Vous êtes ministre aussi des infrastructures et de la capitale nationale. Dans votre comté, en plus, il y a le fameux centre de détention Orsainville. Encore des événements de violence hier là-bas, des livraisons par drone, la gang de Blood Family Mafia qui s'en prend à des agents correctionnels. Est-ce que c'est prévu dans le prochain budget qu'en infrastructure, on va investir dans nos prisons pour protéger nos agents correctionnels? Parce que hey, là, ils en ont plein les bras là, avec la guerre de gangs criminalisés.
Bon, il y a deux choses. Hein. Le Plan québécois des infrastructures, c'est beaucoup les infrastructures. Et oui, je travaille beaucoup avec François Bonnardel par rapport à la sécurité des agents, avec ce qu'on a observé, là, d'ailleurs, des gestes déplorables. Si je reviens au Centre de détention de Québec, il faut comprendre aussi qu'il y a une négociation actuellement. Là, alors, des fois, ça vient teinter un peu ce qui en sort. Mais on investit minimum 25 millions par année en maintien des actifs. Puis, je vous le dis, la sécurité et la salubrité est adéquate. Mais oui, on doit mettre de l'amour dans nos centres de détention. Puis, alors moi, c'est toujours à la demande de François Bonnardel qui a l'analyse de l'ensemble des centres de détention que j'interviens pour mettre les sommes nécessaires.
Comme ministre responsable de la capitale nationale, vous avez eu des grosses dernières années, entre autres avec les dossiers de transport dont on a parlé dans vos autres mandats aussi au sein du gouvernement. Il y a des élections fédérales qui s'en viennent, municipales, puis après ça, 2026, bien, le provincial va arriver vite. Avez-vous l'intention de continuer à travailler comme député?
Et moi, j'adore mon travail. Je suis heureux dans ce que je fais. Et alors, je vois pas pourquoi ça arrêterait.
Ouais. Est-ce que peut-être... une couple de questions pour terminer?
Ben oui.
Tu sais, jaser à M. Jonathan Julien, le politicien, mais aussi père de famille, la personne. On parlait de la violence qu'il y a dans nos prisons actuellement. On peut parler aussi de cette violence-là qui est reflétée dans la société. À quel point l'homme, le politicien, le père de famille est inquiet de ce qu'on voit justement? Hey, on l'a vu en Beauce, on l'a vu à Lévis, on l'a vu du côté de Joliette, on le voit dans notre ville, de cette violence-là présente en ce moment entre gangs de rue et motards.
Mais c'est certain qu'il faut regarder ça puis avoir une certaine préoccupation. Je vais dire ça comme ça. Mais je reviens sur la capitale nationale parce que c'est là que j'habite. Oui. Puis je le répète, puis je le dis souvent. Moi, je me suis lancé en politique en 2013 avec M. Labombe parce que j'ai longtemps pensé quitter Québec. Moi, je suis un comptable agréé. Ma conjointe de l'époque était infirmière. On avait des possibilités. Puis c'était morose avant 2008. Et Québec, depuis cette période-là, là, la qualité de vie est exceptionnelle à Québec. Puis moi, mon défi, c'était de dire, mon fils de 20 ans, ma fille de 23 ans, il était plus jeune à l'époque, j'aimerais ça qu'il ait le goût de grandir, d'évoluer, de s'épanouir dans la région de la Capitale-Nationale. Puis on pose des gestes rapidement. La phase 3, Samuel de Champlain, là, 1 million de visiteurs, ça, là, c'est de la qualité de vie. Ce qu'on est en train de faire dans la phase 4, pour entre la baie de Beauport et les chutes, la même chose. Quand on pose des gestes, tramcité, lien intérieur, quand on pose des gestes qui font en sorte qu'on améliore la qualité de vie des citoyens de la région de la Capitale-Nationale, oui, ça a une répercussion sur l'attractivité, on le voit, on se développe. Et oui, on est encore une des villes les plus sécuritaires, sinon la plus sécuritaire en Amérique du Nord. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas regarder ça de manière vigilante, mais on doit continuer d'investir en infrastructure pour la qualité de vie des citoyens. Et moi, mon job, là, c'est au moins la moitié de mon job, là, comme ministre responsable de la capitale nationale versus infrastructure, capitale nationale mon cœur, infrastructure ma tête. Moi, tous les jours, là, je suis teigneux auprès de mes collègues pour dire quelle part qu'on peut obtenir pour la capitale nationale, justement parce que je tiens à ma région, j'y habite, je suis né ici. Alors, c'est les gestes qu'on pose au quotidien, c'est ce que je fais tous les jours.
Deux petites dernières rapidement, en terminant. Allez-vous lire la biographie de Régis Labombe?
Avec grand plaisir, j'aimerais m'y reconnaître un peu.
Oui, mais c'est ça, pensez-vous qu'on a des petits chapitres sur la centrale de police?
Ou... Je sais pas, j'en ai aucune idée. Puis je réitère, là, tu sais, on a eu une période, puis je l'ai dit souvent, là, une période difficile là, sur ce projet-là.
Clairement.
Mais j'ai passé 5 années fantastiques à la Ville de Québec avec M. Labombe. Les responsabilités qu'il m'avait données, là, ça m'a permis vraiment là, de poser des gestes avec une administration municipale. Donc, je ne regrette pas cette période-là, même si elle s'est terminée d'une façon abrupte.
Tout le monde se pose à Québec si Sam Ahmad va être candidat à la mairie. Avez-vous déjeuné avec dernièrement? Puis vous nous annoncez s'il se présente. Là, on n'est pas capable d'y parler.
Moi, j'ai mentionné, j'ai déjeuné avec Sam parce que Sam, c'est un ami de longue date. Là, et c'était pas dans sa perspective là, de se présenter aux élections municipales. Et naturellement, le meilleur pour répondre à cette question-là, c'est Sam Ahmad.
Mais vas-tu se présenter, selon vous?
Ouais, écoutez, posez-lui la question. Un grand plaisir, messieurs.
Merci cool. beaucoup, Jonathan Julien, ministre de la Capitale-Nationale. Merci de passer nous voir ce matin.
Toujours
merci.
Un plaisir. Boulevard.